Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En bon représentant de l'école Super 8, une génération de cinéastes venant après celle de la nouvelle vague du cinéma japonais, Kiyoshi Kurosawa s'est nourri des films de série B, de ceux de la tradition kaidan du cinéma japonais et des films de genre américain de Richard Fleischer, Don Siegel, Sam Peckinpah, Tobe Hooper ou John Carpenter. L'horreur, le fantastique, le surnaturel, c'est la soupe primordiale du cinéma de Kiyoshi Kurosawa qui, depuis Cure, Charisma, Cairo, Jellyfish et Vers l'autre rive, s'est taillé une réputation internationale. Interrogé sur les revenants qui peuplent ses films, Kiyoshi Kurosawa déclarait récemment « S'il y a souvent des fantômes dans mes films, c'est d'une part parce qu'ils sont une représentation aisément compréhensible de la mort et d'autre part parce qu'ils permettent de rendre le passé visible dans le présent. Toutefois, la vraie raison de mon attachement aux fantômes est la suivante. J'ai du mal à croire que les morts soient totalement dénués de substance et n'aient aucune relation avec nous autres vivants. L'idée que l'esprit est réduit à néant dès lors que le corps disparaît me semble bien trop simpliste. » En 2011, Laure Adler recevait Kiyoshi Kurosawa dans Hors Champ et il était bien évidemment question de fantômes.
Hors Champ. Champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Kiyoshi Kurosawa. Kiyoshi Kurosawa, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien, car vous êtes un cinéaste qui comptait pour nous, à la fois par votre manière de cerner l'imaginaire, de ne pas définir la frontière entre le réel et la fiction, et à la fois par l'absence de frontière que vous faites aussi entre la vie et la mort. Première question. Vous n'étiez pas du tout destiné à faire du cinéma et je crois que c'est grâce à un critique de cinéma que vous en êtes venu à avoir envie vous-même de devenir cinéaste.
Comme c'est une histoire très ancienne, je ne sais pas très bien ce qui m'a donné le désir de faire du cinéma. Je sais que j'aimais beaucoup les films. Et je pense simplement que maintenant que vous me parlez de ce critique de cinéma, en fait, c'est vrai que j'ai suivi les cours d'un grand critique de cinéma qui s'appelle Hasumi Shigehiko, qui donnait des cours de cinéma à l'université. Et j'ai suivi ses cours. À ce moment-là, je tournais des films en 8 mm. Et j'ai suivi ses cours et j'ai Et j'ai été très impressionnée, ces cours, ils m'ont donné l'envie, j'ai compris que le cinéma était quelque chose à laquelle on pouvait passer toute une vie, à rechercher ce que c'était que le cinéma, que ça valait la peine d'y consacrer une vie, parce que c'était quelque chose qui avait un sens très profond, et que même en y consacrant sa vie, on n'était pas sûr d'arriver à savoir ce que c'était que le cinéma, mais ça m'a donné vraiment envie d'y consacrer ma vie.
出ないタグチ君。もう1週間になるんだっけ。即売会のリスト作るのにさ、普通1週間もかかんないよね。そうだね。なんか変。様子見に行った方がいいのかな。今ゾクッとした。え？わかんないよ。わかんないけど何か起こってる。
Vous avez commencé par faire des films justement pour la télévision, des films de genre, comme on dit, des films de yakuza, des polars, des fantastiques, et puis aussi des pornos soft, des pinkies, comme on dit. J'aimerais bien qu'on parle de cet aspect de votre œuvre, parce que je pense que ça fait partie intégrante de votre vision de cinéaste. Et notamment de ce film qui s'intitule The Excitement of Do Re Mi Fa Girl. Monsieur Kurosawa, coquin.
スケベ、これも最初、これは僕が商業映画を撮った2本目の作品なんですが、日活のロマンポルノという。 企画の1本でまあソフトポルノですねでスタートしたんですが、作った直後にその制作した日活が僕ので作った映画を見て、けしからんと、なんでこんな映画を作ったんだとひどく怒られまして、もう公開しないというふうに言われました。でそれは悔しかったので、
C'est un film qui a une histoire assez étrange parce que c'était mon deuxième film de commercial. Jusqu'alors, j'avais fait que des films en 8 mm. Enfin bon, c'était un film pour grand écran commercial qui était produit par la Nikkatsu. Et la première version de ce film, quand je l'ai montré à la Nikkatsu, c'était dans le projet Nikkatsu qui était les romans pornos, c'est-à-dire les pornos romantiques. C'était ce qu'on appelle les pinkies ou les soft pornos, mais c'était romans pornos. Et c'est le terme japonais. Et quand Nikkatsu a vu ce film, ils l'ont trouvé vraiment en dessous de tout, inqualifiable. Ils ont dit qu'il n'est pas question de montrer ce film. Donc ça m'a...
Pourquoi ?
どうしてけしからんだったんですか、そのニカツはどうしてけしからん。まあ、よく僕もわかりませんが、多分、一応ロマンポルノという目的は、やはり見て、この映画を見て、特に男性の客が。La Nikkatsu,
je termine la première réponse. La Nikkatsu l'avait trouvé pas bon et avait décidé de ne pas le sortir. Donc ça m'a consterné, donc j'ai décidé de le refaire. Et en utilisant le même matériau, j'ai refait un autre film, et c'est celui que vous connaissez, le Excitement of Doremi Fagel. Mais ceci mis à part. Alors pourquoi la Nikkatsu a trouvé ce film inqualifiable et pas bon. Je pense que le but de ce projet roman porno, c'est quand même de satisfaire le côté voyeur des hommes en particulier. Et c'est quand même, en étant du soft, c'est quand même de les exciter un petit peu. Et je pense que, je savais, j'étais pas dupe, et je savais, j'ai bien mis des scènes où il y avait des femmes à poil, il y avait des scènes de sexe, mais peut-être que ce n'était pas suffisamment excitant pour les spectateurs masculins. Et puis on m'a reproché aussi que l'histoire qui n'était pas très claire. Mais il y a beaucoup de films de romans porno qui sont avec des histoires pas claires. Donc je pense que finalement, c'était une mauvaise excuse. Quand on m'a reproché la non-clarté de l'histoire, je crois que c'est tout simplement parce que mon film n'était pas suffisamment salace ou je n'ai pas été à la hauteur des espoirs.
C'était pas assez porno parce que vous avez peut-être utilisé le porno pour rendre hommage à Jean-Luc Godard et vous avez mis du Jean-Luc Godard dans votre porno peut-être aussi.
Surtout Jean-Luc Godard poi no porno scrinattano de wanai de shouka. Sans doute.
Kika sou narimashita.
Sûrement.
Jean-Luc というのは昔その大学時代に撮っていた8
ミリ。C'est vrai, d'une certaine manière, parce que c'est vrai qu'à l'époque où je tournais, quand j'étais à l'université, que je tournais des films en 8 mm, j'étais très sous influence de Jean-Luc Godard. Je faisais des films un peu en hommage à Jean-Luc Godard, et que c'est possible que, tout en sachant que je faisais des films commerciaux, quand je suis entrée dans la carrière, j'ai effectivement continué à être beaucoup marquée par Godard. Donc c'était dans la première période de mon activité. Et c'est possible que dans ce roman porno était trop godardien.
En fait, vous n'êtes pas du tout un cinéaste porno, Monsieur Kurosawa. Vous êtes un cinéaste métaphysique, vous êtes un cinéaste des sentiments, vous êtes un cinéaste de la recherche de l'identité. On vous a découvert en France grâce au Festival d'automne avec votre film Cure. Puis ensuite, il y a eu Charisma qui nous a beaucoup, beaucoup impressionnés et où là, il ne s'agissait plus du tout de montrer la femme dans tous ses états, mais il s'agissait d'une histoire d'arbre qui peut-être contenait un poison qui pouvait empoisonner toute une forêt. C'était l'arbre qui était malade, mais en fait, ce sont nos âmes qui étaient véritablement malades, je crois, dans ce film Charisma.
どうもありがとうございます。ただ、まあ、哲学的と言われると少し恥ずかしい気もいたします。そんなに、
La société telle qu'il la voit, en tout cas, telle qu'elle est, pas forcément telle qu'elle est, mais telle qu'il la voit. Et je pense que si on voulait parler de choses plus abstraites ou de métaphysique, par exemple, on pourrait l'exprimer peut-être par le cinéma d'animation. Moi, mon travail, c'est de filmer à travers les acteurs ou les villes, c'est de filmer la réalité telle qu'elle se présente à notre regard. Si de là, on peut arriver à des considérations métaphysiques, ça c'est un plus, mais ce n'est pas vraiment le but de mon cinéma.
Vous dites que vous faites des films qui ne sont que le reflet de la vie quotidienne, Kiyoshi Kurosawa. Cependant, pour en revenir à Charisma, Ça démarre comme un polar avec une histoire de flic et puis très vite, on en vient à soigner les écorces des arbres, on parle aux âmes. D'où tirez-vous vos sujets ? Par exemple, comment avez-vous imaginé Charisma ? C'est pas à partir de la vie quotidienne à Tokyo ?
Charisma wa oshiru yoni
Le point de départ de Charisma, c'est que j'ai voulu faire un film un peu expérimental, un film justement qui me coupait de la réalité, qui me coupait de la vie quotidienne ou de la société telle que je la voyais. Et je cherchais un lieu qui pouvait me permettre une certaine abstraction. Et étant donné les données des conditions de tournage que j'ai de mes films, qui sont toujours les mêmes, c'est à peu près toujours le même budget, le même nombre de jours de tournage, il fallait que ce soit quelque chose qui soit pas trop loin, qui soit dans Tokyo, à quelques heures, au maximum une ou deux heures de voiture de Tokyo. Et la seule possibilité pour trouver, j'ai pensé que pour trouver un lieu abstrait, ça pouvait être la forêt. C'était le seul lieu qui soit à portée de mon budget, de mes nombres de jours de tournage, et la forêt pouvait être un lieu où pouvait se laisser libre cours à l'abstraction. S'il y avait eu un désert, ça aurait été encore mieux, mais il n'y a pas de désert au Japon, et c'était exclu que j'aille jusque dans un désert. Et je pense que c'était pas mal. Ce qui était le plus proche de moi, à ma portée de la main, c'était une forêt, et c'est dans le cadre de cette forêt qui était le symbole de l'abstraction que j'ai voulu raconter cette histoire. Dans vos films, Kiyoshi Kurosawa, plusieurs thèmes obsessionnels. On vient de parler de Charisma avec cet arbre qui empoisonne toute une forêt. Mais il y a aussi le devenir animal de notre humanité qui vient imprégner certains de vos films. Je pense par exemple à Cairo. Et puis il y a aussi le thème de la famille qui vraiment constitue un thème quasi obsessionnel à l'intérieur de votre œuvre. Je voudrais qu'on parle de Listens to Live. Listens to Live, c'est un film qui commence comme un fait divers. Comme souvent dans vos films, l'histoire d'un garçon qui, dans un hôpital, après 10 ans de sommeil artificiel, se réveille alors que tout le monde le prenait pour un mort. Il avait 14 ans quand il a eu un accident. Il en a donc 24 quand il revient à la vie. Comment et pourquoi avez-vous choisi ce thème ?
C'est
une de mes habitudes, c'est d'essayer de faire, de changer les séquences dans les films que je tourne. Ce film a été tourné, je crois me souvenir, c'était après Cure. Et Cure était il y a eu une séquence de films de suspense, de thriller très très puissant. Et j'avais envie de faire quelque chose de totalement différent, de rompre ce rythme. Donc c'était avant Charisma justement. Et voilà pourquoi j'ai voulu tout changer d'un seul coup. Et ça m'arrive souvent de changer. Et voilà, License to Live est né de ce désir de changer.
Et License to Live, c'est aussi une histoire de morts et de vivants qui doivent vivre ensemble. On ne sait pas qui est vivant, d'ailleurs. Le personnage, qui donc a maintenant 24 ans, va essayer de retrouver et de reconstruire sa famille avec beaucoup de difficultés. Et il est vivant, mais personne ne le prend pour un vivant puisqu'il est mort pendant 10 ans. Et c'est ça qui est extraordinaire dans votre film, c'est que même celui qui a créé l'accident, qui a fait qu'il a passé 10 ans dans un hôpital comme s'il était mort, vient lui dire « mais il n'y a pas que toi qui as perdu 10 ans, moi aussi, parce que j'ai éprouvé beaucoup de culpabilité ». On se demande si les morts ne sont pas plus vivants que les vivants. Et ça aussi, c'est une des thématiques obsessionnelles qui reviennent dans tous vos films.
Je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi j'ai fait ce film.
カリスマという木が前半ある木があるんですけど、その木を前半、その木は途中でもう引き抜いて、取り除いてしまうんですけど、もう一本ほとんど死んだような枯れ木のような、まるで幽霊のようなもう一本の木があるというような展開になっていたことを思い出しました。僕の映画の中では、どうも生きていることと死んでいること。
Oui, maintenant je m'en souviens, bon, tout le monde croyait qu'il était mort et puis en fait il était vivant et c'est vrai que ça me fait penser au film suivant, c'est le film Charisma dans lequel, dans la première partie du film, il y a cet arbre qui est dont la peau se tombe et alors, on croit qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Il y en a un autre à côté qui est, lui, atteint de ce poison. Et c'est vrai que, et qu'il est un peu, il y a un arbre qui est comme un fantôme, en fait. Et c'est vrai que, dans mes films, la frontière entre le vivant et le mort, et toutes les frontières sont assez abolies, parce que même quand je filme, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais même quand je filme la réalité, je dis que je filme la société, je filme ce qui est devant moi, je me demande si ce que je filme existe vraiment. J'ai toujours le doute, et c'est pour ça c'est difficile d'établir pour moi la frontière entre ce que je vois, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel, ou est-ce que c'est... Donc c'est la particularité peut-être de mon cinéma et dans tous mes films, je me demande finalement si la réalité est vraie ou elle n'est pas vraie.
Edison no Reikai Koshinki. Kore wa?
Kasetsu to kusou o kondou shizukete masu ka?
Ie, sore wa ii nda kedo sa. Tada, shinrigaku kara amari itsudatsu shisugiru no wa dou kana?
Demo koitta ten ga subete jijitsu de aru toukoto wa, kono ida kyoujou o mitomemashita yo ne?
まあね。
Est-ce que vous rêvez beaucoup ? Est-ce que vos rêves sont le bassin d'imaginaire de vos films ? Et est-ce que vous croyez aux fantômes ?
そんなに頻繁に毎日のように見るということはないです。まあでもたまに見ます。ただ僕の見る夢は本当につまらないですね。現実の延長のような本当夢の中だけに許されるすごくファンタジックな設定とかがあったらとても楽しいなと思うんですけど、僕の見る
夢は。Pas très fréquemment, je rêve, mais mes rêves sont pas du tout intéressants. Mes rêves sont comme des prolongements de la réalité, de la réalité. C'est pas des rêves fantastiques, c'est pas des rêves tellement amusants à raconter aux autres. Ce sont des rêves, par exemple, je rêve de tournage de films. Je me dis, est-ce que le tournage de demain va bien se passer, ou bien je rêve que je suis dans un train ou dans un tram. Et c'est que des choses pas très 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 intéressantes. C'est dommage, mais c'est dommage.
ないということに関してはよくわかりません。僕は見たことないし、見たという人もいますが、知り合いに、ちょっとあんまり信用していません。だから幽霊がいるいないということは あまり僕にとっては現実味のある話ではないのですが、しかし死んだ幽霊がいるいないというのは実は。
En ce qui concerne les fantômes, je n'en ai jamais vu. Je connais des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient vu, mais ce sont des gens qui ne sont pas forcément très dignes de foi. Mais je pense que Je pense que ça a à voir plutôt avec la mort, et je pense qu'il faut se poser la question, après la mort, il se passe quelque chose. Bon, est-ce que tout disparaît ou est-ce qu'on reste sous une forme ou sous une autre? Et je crois que quand on pense aux fantômes, il faut penser à la mort. Et je ne crois pas qu'on disparaisse complètement. Et il est possible que l'on reste sous une forme ou sous une autre, je ne sais pas quelle forme, et que c'est peut-être des fantômes dans le sens très, un sens très très large, qu'on subsiste quelque part en tant qu'esprit, quelque part, mais pas sous la forme de fantômes tels qu'on les représente, mais c'est très lié à l'image de la mort et de ce qui reste après la mort.
Et les fantômes sont plutôt gentils et pas du tout agressifs. Non, vous les rendez tellement humains dans vos films, je pense notamment à Cairo, vous les rendez plus humains que les hommes, les fantômes.
かもしれません。映画、いてらっしゃる監督のやってらっしゃるその幽霊が人間よりも人間的ですね。多分そうでしょう。攻撃的なのは生きている人間の方ですね。
幽霊は agressif c'est les hommes, hein? C'est les hommes, les êtres vivants. Les fantômes c'est pas agressif.
まあ、ただ幽霊はもちろん、ただある、もし幽霊を僕が見てしまったらやっぱり 攻撃はされないと思いますが、やっぱりある自分の、自分は生きていて向こうは死んでいるんだっていう、死んで、もう死んでしまった人がそこにいるとなると。
Je pense qu'ils ne sont pas agressifs, les fantômes ne sont pas agressifs, simplement leur existence même, si jamais on en rencontrait, cela pourrait remettre en question notre propre existence. Je pense que moi, si j'en voyais un, je me poserais des questions sur moi-même, et donc ce n'est pas leur agressivité qui serait dangereuse, c'est plutôt leur présence elle-même, même s'ils sont gentils, c'est que ça peut nous permettre de nous poser des questions sur nous-mêmes.
J'ai l'impression, Kiyoshi Kurosawa, qu'au fur et à mesure de vos films, vous abordez de plus en plus les problèmes sociaux tout en nous invitant à des voyages imaginaires absolument magnifiques. Dans Cairo, il y avait déjà la société de consommation, l'arrivée d'Internet, etc. Et dans ce film Tokyo Sonata, c'est un sujet éminemment brûlant qui nous concerne aussi en Occident, puisque vous avez choisi comme thème l'histoire d'un homme qui est cadre, on peut dire qu'il est cadre, dans une grande entreprise, qui se fait licencier et qui va pas oser le dire à sa femme et à ses enfants. Est-ce que c'est à cause de cette crise qui a sévi et qui, je crois, sévit toujours au Japon de l'emploi que vous avez choisi ce thème? Ou est-ce que c'est votre, encore une fois, votre obsession du fantôme, parce que cet homme va se dédoubler?
Tokyo Sonata, en ce qui concerne,
Non, mais j'ai écrit ce film Tokyo Sonata il y a 2 ans. C'était la crise n'avait pas encore explosé encore. Et en fait, c'était bien avant. Et je voulais simplement montrer, c'était pas le fait qu'il soit au chômage que je voulais montrer, c'était le fait qu'il le cachait à sa famille. Et effectivement, en le cachant à sa famille, il créait un personnage imaginaire. Il avait le personnage, l'image qu'il donnait de lui-même et le vrai lui-même. Et il ne savait pas où était le vrai lui-même, en fait. Et c'est plutôt, c'est ça le sujet du film. Ce n'est pas la crise, ce n'est pas le chômage, c'est le dédoublement du personnage, comme vous l'avez dit, et il est à la recherche d'une identité imaginaire qu'il n'a pas encore trouvée, et il n'a pas encore réussi à faire naître le nouveau lui-même. Donc il est dédoublé pendant tout le film.
Mata-sama.
Oui.
ってきます。
いらっしゃい。
いらっしゃい。
C'est un film passionnant par bien des égards. Avant d'aborder les thématiques de ce film, je voudrais qu'on parle de votre style, Kiyoshi Kurosawa, car ce film, Tokyo Sonata, m'a beaucoup fait penser par son art du cadrage et par sa manière de montrer la famille, m'a beaucoup fait penser à un des maîtres japonais qui s'appelle Ozu. Est-ce que vous êtes influencé par son cinéma ?
まず僕は若い頃から小津の映画が大好きで、まあ、未だにちょくちょく見ています。まあ、小津安二郎の熱狂的なマニアと言っていいでしょう。ですから今回の企画が東京ソナタが放っておくと本当に小津に似てしまう、小津の真似をしてしまいそうだというのがとても怖かったです。小津のことは大好きですが、小津そっくりな真似をして映画を作ろうとは思いません。
それで mon rapport à Ozu est très simple. Je suis un fondu d'Ozu. J'adore Ozu. Je suis un admirateur. Je suis un maniaque, on pourrait dire, de Ozu. Et c'était d'ailleurs mon problème avec ce film. C'est quand on m'a demandé, quand on m'a proposé ce scénario, j'ai senti le risque tout de suite que l'on m'identifie avec que ça soit un film en hommage à Ozu, une copie d'Ozu ou quelque chose. Et je voulais absolument éviter cela. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter cela. Mais malgré cela, je me suis aperçu que sur le tournage, que même les caméramans mettaient instinctivement la caméra exactement à la Ozu. Les acteurs, on m'a dit qu'il y avait des regards, le regard était à la Ozu. Et bon, ben, tant pis, Ozu est un maître, et ben, tant pis, j'ai essayé le maximum de ne pas le copier, en tout cas au niveau conscient, et puis au niveau inconscient, c'est ressorti. Et puis c'est bien comme ça, puisque j'adore Ozu.
L'action se passe aujourd'hui, et c'est un Tokyo qu'on ne connaît pas qui est montré dans ce film, puisque c'est le Tokyo de tous ces cadres licenciés dans les périphéries de la ville. C'est pas le Tokyo des néons, c'est pas le Tokyo de la, justement, des grands immeubles, des grands buildings, etc. Et surtout, c'est un film qui nous invite, nous spectateurs, à un voyage personnel très, très intense, parce que je crois qu'une des questions du film, c'est existe-t-on soi-même si on n'est pas dans le regard des autres ? Est-ce que vous êtes d'accord ?
そのことを、まあ、この家族4人いて、4人それぞれ違いますけども、みんなそれぞれの問題を抱えていて、自分というものが不安になっているんですが、多分おっしゃるように、誰にも見られてないたった一人の。
Je pense que la personne dans les quatre personnages du film, les quatre personnages qui sont tous des personnages principaux finalement, celle qui représente le mieux cette question, c'est le personnage de la mère qui, elle, se pose la question si elle n'existe plus dans le regard des autres, est-ce qu'elle existe vraiment ? Et c'est elle qui symbolise le mieux cette question. Et je crois que chacun se l'est posé à tour de rôle dans le film. Et c'est elle qui le porte du début jusqu'à la fin pratiquement.
いくら話したってお父さん、自分の意見絶対に変えないじゃない。エロ林と一緒だよ。本当はただ説教して、威張りたいだけなんでしょ。
やめて！
大丈夫？もういいから2階行ってなさい。
手は出さないで。
うん。
いいじゃない、ピアノぐらい。
一度ダメだと言ったものはそう簡単には撤回できない。これは親の権威に関わることだ。たかしには何でも好きにやらせすぎて失敗した。だからケンジには俺の価値観を無理にでも押し付ける。めぐみも協力してくれよ。親の権威にこうブレがあったらやっぱりまずいだろう。なんだその目は。
私この間見ちゃった。あなたが公園で食事の配給に並んでる
ところ。 Est-ce que Tokyo Sonata c'est pas aussi un film qui dénonce le machisme au Japon? Parce qu'on a l'impression que dans ce film justement L'homme, il est à la fois le père, mais il est aussi celui qui dirige et qui doit tout décider, y compris à la place de sa femme. Il n'y a pas tellement de place pour la femme.
なんとなくそれが一つの日本の典型的な家族であるという、まあ、一種の、まあ、幻想の上に、もうずっと日本の社会というのは成り立ってきているように思います。もう本当はそうではそんな男性が家族をの頂点にいて全ての権力を思って責任も持って家族を養い率いているっていうのはまあもう何十年も前からそんなはずはない、それは嘘だってほとんどの人は分かっているんですね。
Pas vraiment un reflet de la du machisme japonais, c'est plutôt le reflet de l'illusion de la famille japonaise, c'est-à-dire que cette illusion que la famille japonaise repose sur l'autorité paternelle qui décide de tout dans la famille. On sait depuis plusieurs dizaines d'années que ce n'est plus vrai, que ce n'est plus le cas, que le père n'a plus de pouvoir, mais on continue à faire comme si parce que l'on n'a pas trouvé le modèle de remplacement et toute la société continue à fonctionner comme cela. C'est une espèce d'illusion, un fantôme de famille. La société japonaise est malade du fait que les familles sont maintenant dirigées par des fantômes. C'est l'illusion du père. Autrefois, c'était réel. Maintenant, on le sait que ce n'est plus ça, qu'ils n'ont pas tout le pouvoir sur tout le monde et que tout le monde a des autres. Mais c'est le fantôme de famille. C'est un portrait du fantôme de famille et on n'a pas encore trouvé la formule de remplacement.
軍隊に入るの？アメリカの？
うん。アメリカ国民でなくても志願できる制度ができたんだよ。テレビでもやってたでしょ？
知らないけど。
その第一期生の書類審査に受かったの？
ちょっと待って。
あと身体検査と指導検査受ければ合格。
Tokyo Sonata est aussi, je crois, un film très politique, puisque ce père et cette mère ont deux enfants, un petit garçon et puis un jeune homme qui va décider de s'engager dans les troupes américaines pour pouvoir rejoindre l'Irak. Et j'ai pensé à Hiroshima en voyant Tokyo Sonata. Pourquoi avez-vous inventé ce personnage de ce jeune homme qui veut rejoindre les troupes américaines ?
はい、まずこの長男をどうするかというとき考えていたときに、母親が先ほど言いました母親が自分自身の内面、誰からももう見られていないたった一人の個人の内面に問題を抱えていたのと全く反対に、この長男はこの、まあ、家族がいる、まあ、家庭、彼の住んでいる家から最も遠い場所に彼の問題を設定しようと思ったんですね。で、家から最も遠い場所ってどこだろうって考えていた時にふと思いついたのは戦場だったわけです。戦場というのは、まあ、多分あの家庭から物理的には最も遠い、そこに彼が行ってしまう物語にならないかと思ったのが彼が米軍に入隊するというアイデアのきっかけになりました。で、もちろん実際に今米軍に入隊できるという制度があるわけではありません。ご存知かどうか分かりませんけど、日本では今一応軍隊はあるんですが、戦争をしてはいけないという法律、憲法の下で、があって、戦争はしないことになっているんですが、だから現実に今彼が戦場に
行きたいと、もし思ったら
日本の軍隊に入ってもいけない。
comme cela, c'était pour une raison très pratique dans l'élaboration des personnages, c'est-à-dire que les personnages, les deux caractères les plus opposés, c'était le fils aîné et la mère. La mère est complètement enfermée dans son univers, elle n'existe plus puisqu'on la regarde même pas. Et le fils veut partir le plus loin possible de cette famille qui l'aliène et dans laquelle il se sent aliéné. Et donc, qu'est-ce qui était pour moi le plus loin possible de cet environnement familial ? C'était le champ de bataille, c'était la guerre à cette époque-là. Le seul pays qui était, enfin, un des pays qui était en guerre, c'était effectivement l'Amérique avec l'Irak. Et tout d'un coup, ça a rejoint une de mes préoccupations qui est, comme vous le savez sans doute, le Japon a une armée alors que c'est interdit par la Constitution que cette armée aille sur des champs de bataille extérieurs. Donc la seule possibilité pour lui d'aller sur un champ de bataille, c'était de rejoindre l'armée américaine. Bien sûr que c'est pas possible pour le moment, mais c'est vrai aussi que c'était pour attirer l'attention sur cette situation japonaise qui risque de changer du jour au lendemain, ou peut-être un jour demain, on enverra des troupes japonaises sur les champs de bataille extérieurs, et ce sera la fin d'une époque. Et l'époque où le Japon n'avait pas le droit d'envoyer et ceci m'inquiète beaucoup. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai peint ce personnage et élaboré ce personnage.
Suida.
Daijoubu kana, Kenji.
Tokyo Sonata est aussi un film très intense sur le désir, le don, la beauté, puisque les quatre personnages sont traités à égalité, comme vous l'avez dit. Le personnage le plus jeune est un enfant qui sait pourquoi, je ne sais pas, je vous pose la question, Kiyoshi Kurosawa, qui sait qu'il a le don de la musique. Et c'est un des plus beaux films qu'on ait vu sur justement la beauté et l'émotion que peut provoquer l'amour de la musique.
Je suis un petit peu désolée, mais ce n'est pas le sujet vraiment, le don pour la musique. En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que, bon, c'est vrai qu'il est doué pour la musique, mais ça pourrait être n'importe quel, ce n'est pas seulement un don, mais c'est le désir de faire quelque chose qui lui plaît et de le faire à fond. Et quand quelqu'un rencontre ce qu'il veut faire et qu'il le fait à fond, il gagne une force qui peut rayonner sur tout le reste de son environnement. Et c'est la source de l'espoir à la fin de ce film. Et c'est pas parce que c'est la musique. Bon, il se trouve que là, dans ce film, c'est la musique. Mais ça pourrait être n'importe quelle autre passion qu'il pourrait avoir pour n'importe quoi d'autre, l'arrangement floral ou je ne sais pas, n'importe quoi d'autre, et qu'il le mène jusqu'au bout. Et cela lui donne une force, et cette force permet à la famille de, éventuellement, de pouvoir se réunir. Alors qu'au début, la famille était complètement disloquée. Et c'est plutôt ça que j'ai voulu montrer. Et s'il y a dans ce film, à la fin, une petite lueur d'espoir, c'est l'espoir qui naît de la force qui vient du désir d'accomplir ce pourquoi on est doué.
Il y a un plan absolument saisissant où on voit cet homme qui a dégringolé l'échelle sociale et qui a accepté de le faire, et qui, après avoir été donc cadre supérieur, devient nettoyeur. où on le voit finalement s'occuper de détritus et lui-même devenir détritus. Mais finalement, ce que vous faites, Monsieur Kurosawa, c'est un film aussi sur nous-mêmes, parce que il y a la lueur d'espoir du petit garçon, mais aussi il y a la lueur d'espoir de cet homme qui n'est plus rien socialement, finalement, va comprendre qu'il est quelqu'un au regard de lui-même et de ceux qu'il aime dans sa famille, non ?
ショッピングモールで掃除をしているのが、まあ、最初は多分自分はなんて、自分はゴミのようだと思ったかもしれません。
でも、il a regagné l'estime de lui-même en justement en faisant à fond ce pourquoi il est payé. Il le fait et avec ceci il regagne l'estime de lui-même et quand il frotte le sol et qu'il fait reluire toutes les parties communes de ce centre commercial, il rejoint la passion de son fils pour le piano et quelle que soit la chose que l'on fait, si on la fait à fond, on peut regagner l'estime de soi et on peut devenir fort.
Merci infiniment, Kiyoshi Kurosawa, pour ce très beau film qui s'intitule Tokyo Sonata. Merci Kiyoshi Kurosawa. La plupart de vos films sont disponibles en DVD. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Jean-Richard Dufour, Brigitte Bouvier, Didier Lagarde, Advanissa Prévost et Catherine Parent. Bonne soirée à l'écoute de France Culture.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 avril 2011 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.